Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Nature sauvage et Capot Diamant. Au programme, le seigneur de la banquise. Et quelques histoires autour du tabac en Nouvelle-France. Bonne écoute.
Le seigneur de la banquise, la baleine franche du Groenland. Un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru dans Nature sauvage, hiver 2021-2022, numéro 54. Des 94 espèces de cétacés inventoriées dans les eaux du globe, seules trois, dont le beluga et le narval, sont endémiques au milieu arctique auquel elles sont parfaitement acclimatées. Portrait de la baleine franche du Groenland, le troisième membre, mais non le moindre, de ce trio du froid. Première semaine d'août 2019. Dans le fjord Icy Arm et à une vingtaine de kilomètres de l'embouchure du golfe Buchan, sur la côte est de l'île de Baffin, une quinzaine de baleines franches du Groenland nage tranquillement en compagnie d'une douzaine de narvals. Cette observation est unique, car rares sont les baleines de cette espèce qui s'aventurent si loin à l'intérieur des fjords. Y ont-elles pénétré pour suivre un banc de copépodes, des crustacés qui constituent leur nourriture habituelle, ou pour fuir leur principal ennemi, l'orque? Difficile à dire. Une distribution polaire. La baleine boréale, un autre nom fréquemment donné à cette espèce, est un mammifère marin endémique aux eaux froides arctiques. Elle présente une distribution circumpolaire et ses déplacements sont étroitement liés à ceux de la glace flottante. En été et en automne, elle séjourne dans les eaux totalement dépourvues de glace du haut arctique jusqu'au 60e degré de latitude. L'hiver, elle réside entre les Polynies, des régions libres de glace du haut arctique et la limite méridionale de la banquise aux environs du 55e degré de latitude. Il existe cinq populations de cette baleine, dont trois en eau canadienne. À l'ouest, celle des mers de Bering, des Tchouktches et de Beaufort. Au centre, celle de la baie d'Hudson et du bassin de Fox. À l'est, celle de la baie de Baffin et du détroit de Davis. Les deux autres populations sont celles de l'île du Spitsberg, au nord de la Norvège, et celle de la mer d'Okhotsk, entre la côte orientale de la Russie et la péninsule du Kamchatka. Si ces différents groupes longent parfois la côte, ils s'en tiennent généralement éloignés, tout en restant dans des eaux peu profondes, au-dessus des hauts fonds où les remontées d'eau, upwelling, des courants sous-marins provenant du fond, apportent vers la surface la nourriture indispensable à la survie de ces cétacés dans ces eaux froides. En été, il est fréquent d'apercevoir cette baleine proche de la glace flottante, particulièrement dans la mer de Beaufort. Population en péril. Les estimations concernant les effectifs globaux de baleines franches du Groenland varient selon les rapports, sont assez contradictoires. Il est évalué qu'avant la chasse par les baleiniers occidentaux amorcée au XVIIe siècle, la population s'élevait approximativement à 50 000 individus. Aujourd'hui, on estime que ce nombre varie entre 10 370 et 16 200, dont plus de la moitié se trouvent dans le Pacifique Nord. Les répartitions seraient entre 8 200 et 13 500 dans les mers de Bering, des Tchouktches et de Beaufort. Près de 350 dans la baie d'Hudson et le bassin de Fox. Entre 1 500 et 1 900 dans la baie de Baffin et le détroit de Davis. Quelques dizaines dans les eaux de Spitsberg, et enfin entre 300 et 400 individus dans la mer d'Oxhock. Dans les eaux québécoises, au nord du Nunavik, cette baleine fréquente occasionnellement les eaux du détroit d'Hudson et appartiendrait à la population de la baie d'Hudson et du bassin de Fox. Il est également probable que des individus de la baie de Baffin et du détroit de Davis effectuent quelques incursions dans les eaux du nord de la baie d'Ongava, entre le sud de l'île de Baffin et le nord de Nunavik. Au Nunavut, cette espèce est surtout commune l'été, dans la baie d'Isabella, située sur la côte est de l'île de Baffin, ainsi que dans la crique du Prince-Régent, à l'est de l'île Somerset. Une baleine difficile à observer. La baleine franche du Groenland est considérée comme rare, non pas tant à cause du nombre d'individus, mais plutôt en raison de sa distribution dans des eaux nordiques peu fréquentées par Homo sapiens. Ces mœurs ne sont pas non plus étrangères à cette rareté relative. Probablement animées d'une crainte que des siècles de chasse commerciale lui ont inspirée et qu'une longue durée de vie entretient, la baleine franche du Groenland évite désormais tout contact avec les humains. Elle ne s'approche pas des navires, s'en éloignant même assez souvent. Ses immersions prolongées, elle plonge d'ordinaire de 10 à 20 minutes et a la capacité de demeurer immergée jusqu'à 40 minutes, lui permettent de parcourir de considérables distances sous l'eau et de confondre l'observateur le plus attentif. Étroitement liée aux glaces flottantes, tout comme le béluga et le narval, la baleine franche du Groenland est adaptée à la nage le long de la banquise et aux grandes distances sous la glace, loin de son seul prédateur, l'orque. Si nécessaire, elle peut casser la glace pour respirer, sa mâchoire supérieure comportant un renforcement des os. Dépourvue d'ailerons dorsales, son dos est en mesure de fracturer une banquise de 1 mètre d'épaisseur. Grâce à son importante couche de graisse, qui fait de 43 à 50 cm, la plus épaisse de tous les animaux, cette baleine est apte à vivre dans les eaux les plus froides. Record de longévité chez les vertébrés. Jusque dans les années 1990, l'âge des cétacés était estimé en étudiant la coupe transversale d'une dent, dans le cas des cétacés à dents, ou d'un bouchon cireux qui se forme dans les oreilles internes d'un cétacé à fanon. Dents et bouchons étant composés de couches superposées, chacune d'entre elles correspondant à un cycle annuel, les chercheurs occidentaux évaluaient la durée de vie des baleines à environ 50 à 70 ans, voire 80 ans. Toutefois, les chercheurs japonais soutenaient que ces animaux pouvaient vivre au-delà de 100 ans. Ils avançaient pour preuve 2 rorquals, l'un commun et l'autre bleu, ayant atteint 110 ans, selon leurs analyses. Une baleine franche du Groenland allait bouleverser ce domaine de connaissances et donner raison aux cétologues nippons. À la fin des années 1990, lors d'une chasse aborigène dans la mer de Beaufort, des Inuits de Point Barrow, en Alaska, ont découvert 2 pointes de harpons en silex dans la couche graisseuse de cette baleine. Ne notant aucune cicatrice extérieure, ils ont été étonnés, à juste titre, par ces artefacts d'intérêt presque archéologique, puisque les Inuits ne chassent plus avec ce matériel primitif depuis 1870. Le spécimen devait donc être plus que centenaire, une conclusion qui s'impose d'autant plus que d'autres autochtones de l'Arctique ont depuis à quelques reprises trouvé de semblables matériaux de chasse anciens incrustés dans le lard de ces cétacés. Les scientifiques utilisent de nos jours une approche plus fiable afin de déterminer l'espérance de vie réelle des baleines à l'aide du rapport entre les formes gauche et droite des acides aminés, des constituants des protéines. Quand cette méthode a été appliquée à 4 baleines franches du Groenland fraîchement capturées, les résultats ont démontré qu'elles étaient âgées de 135, 159, 172 et 211 ans. Il reste à recourir à cette méthode de recherche pour les autres espèces de baleines et des surprises attendent probablement les chercheurs. Si les populations de baleines franches du Groenland, de l'Arctique européen et de la Sibérie sont en danger de disparition, il est permis de croire que celles du Grand Nord canadien et de l'Alaska auront la chance d'atteindre ces âges vénérables. Jean-Pierre Sylvestre est spécialiste des cétacés, tout particulièrement des orques et des narwals. Il est également photoreporter et auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les mammifères marins et la zoologie. C'était Le Seigneur de la banquise, la baleine franche du Groenland, un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru dans Nature sauvage, hiver 2021-2022, numéro 54. Quelques histoires autour du tabac en Nouvelle-France. Un texte de Catherine Ferland, paru au printemps 2019 dans le magazine Cap au Diamant, le numéro 137. Le tabac est une substance étonnante. Utilisé traditionnellement depuis plusieurs milliers d'années, sous diverses formes, par les premiers habitants des Amériques, il est adopté et se répand simultanément en Orient, en Europe et en Afrique dès la fin du XVIe siècle. En fait, le tabac est l'une des substances non alimentaires qui connaît l'expansion géographique la plus impressionnante, conquérant littéralement la planète entre la Renaissance et les Lumières. À l'époque de la Nouvelle-France, les Français sont déjà familiers depuis plusieurs décennies avec la consommation du tabac qui prend dans leur culture une dimension essentiellement récréative. En s'installant aux abords du Saint-Laurent, les colons rencontrent des peuples qui font usage de tabac depuis plusieurs milliers d'années, fumant le tabac par plaisir, afin de faciliter les contacts sociaux et surtout qui accordent à ce rituel un sens religieux et symbolique. La rencontre de ces pratiques tabagiques est un aspect intéressant de l'aventure coloniale. Voyons quels sont les tabacs utilisés au XVIIe et XVIIIe siècle et surtout, comment évoluent les usages entourant le tabagisme à l'époque de la Nouvelle-France. Vertus alléguées du tabac au XVIIe siècle. La popularité du tabac repose en partie sur ses prétendues vertus médicinales. Selon la théorie des humeurs, qui fonde les mœurs alimentaires et médicales, les fumées du tabac, chaudes et sèches, équilibrent les humeurs froides et humides du corps humain. On croit qu'elles débouchent les conduits du corps et évitent les obstructions qui causent la maladie. Certains médecins préconisent l'usage du tabac pour guérir les coliques, les hernies, les maux de dents, les problèmes rhumatiques et respiratoires, l'insomnie et même la chute des ongles. La cendre qui reste au pétunoir a la réputation d'être excellente pour consolider les plaies. En 1749, Père Calme affirme qu'un mélange de tabac et de poudre à fusil est un contrepoison efficace lorsqu'appliqué sur les morsures de serpents. Bref, le tabac est jugé bénéfique pour la santé. Les propriétés qu'on lui prête créent donc une sorte d'aura magique autour de cette plante américaine. Si certains médecins émettent des mises en garde à son encontre, le qualifiant d'herbe violente, Le tabac est largement utilisé à des fins médicales et au milieu du 17e siècle, il est devenu un produit de consommation courante. Une variété indigène, Nicotiana rustica, croît librement en de nombreux endroits du continent nord-américain. Plusieurs nations amérindiennes font grand labourage de pétun, chose très précieuse entre eux, et parmi tous ces peuples universellement, affirme Marc Lescarbot. Entre autres, la nation du tabac, dont les membres sont aussi connus sous le nom de pétun ou Tionontati, est une branche de la famille iroquienne qui exploite de vastes champs de tabac depuis déjà plusieurs siècles au moment où quelques explorateurs français les rencontrent, en 1616. Cette variété de tabac tient du poivre et du gingembre, selon Lescarbot. Les dirigeants coloniaux tentent de développer la culture du tabac au Canada. La production locale fournit de bonnes quantités de tabac dès le début du 18e siècle, particulièrement dans les seigneuries de Lachenaie, Terrebonne, Sorel, Masquinongé, Yamaska, d'Orvilliers, Berthier, Repentigny, l'Île-Jésus et dans les sept paroisses de l'île de Montréal. Les seigneuries de la région de Trois-Rivières sont également bien représentées, notamment Champlain et Cap-la-Madeleine. Dans la région de Québec, ce sont les seigneuries de Saint-Nicolas, de la pointe de Lévis, de la côte de Lauzon et de l'île d'Orléans qui s'avèrent les plus grandes productrices de tabac. Si la production s'élève à environ 48 000 livres de tabac en 1721, elle a pratiquement quadruplé en 1739. Les récoltes de la fin des années 1740 sont si abondantes que de grands espoirs sont permis. L'intendant Gilles Locard soutient que la colonie est sur le point de devenir encore plus utile à la France par la culture du tabac. Cette production s'avère cependant fragile. La présence de vers ou de chenilles, un manque ou un excès de pluie, des gelées hâtives anéantissent d'entières récoltes. En outre, pour avoir une valeur marchande, le tabac doit répondre aux critères établis par les fermiers généraux. La culture du tabac canadien importé, auxquelles sont associées des formes de tabagisme différentes, le tabac en feuilles et le tabac en poudre. Importation de tabac à fumer. La colonie achète d'importantes cargaisons de tabac en feuilles provenant principalement du Brésil, des îles, du Mississippi et de la Louisiane. Jusque dans le premier quart du 18e siècle, les tabacs des îles doivent parfois, commerce triangulaire oblige, effectuer un détour par la France avant d'aboutir dans la colonie. Les stocks, exposés à l'humidité des cales, sont fréquemment en mauvais état lorsqu'ils parviennent enfin au port de Québec, après cet aller-retour transatlantique inutile. Le développement des relations maritimes directes entre les Antilles et le Canada vers 1720 permet enfin aux Canadiens d'obtenir sans intermédiaire des tabacs des îles françaises d'Amérique. Pour la seule année 1734, les employés du port de Québec enregistrent l'arrivée de 1804 livres de tabac de Saint-Domingue et de 3200 livres de tabac de Saint-Vincent sous forme de feuilles séchées et roulé en carotte, un produit destiné à être fumé. De la variété Nicotiana tabacum, ces tabacs s'avèrent forts et très parfumés. Ils détrônent le tabac canadien non seulement auprès des colons d'origine française, mais aussi auprès des Amérindiens eux-mêmes. Ces derniers en sont très friands et ne se privent pas d'en exiger lors des transactions commerciales et diplomatiques, voire des alliances qu'ils scellent avec les Français. Les Amérindiens établis dans des territoires plus septentrionaux semblent particulièrement amateurs de tabac importé, si l'on se rapporte aux observations de Père Calme au milieu du 18e siècle. Je vous rappelle que vous écoutez Quelques histoires autour du tabac en Nouvelle-France, un texte de Catherine Ferland, paru au printemps 2019 dans le magazine Cap au Diamant, dont le numéro 137. Fume, 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 fais de la fumée. En Nouvelle-France, tout comme dans la métropole, fumer la pipe constitue une pratique extrêmement répandue. Si la plupart des couches de la société adoptent cette forme de tabagisme, c'est cependant chez les gens du peuple qu'elle devient la manière la plus commune de consommer le tabac. On fume le tabac seul ou mêlé de feuilles séchées de sagashkomi, busserole, ou de vinaigrier, ou bien encore d'écorce de hare rouge afin de l'adoucir un peu. Plusieurs types de pipes coexistent au Canada. Au XVIIe siècle, on utilise volontiers les petites pipes d'argile, souvent appelées erronément pipes de plâtre, dont la morphologie est directement inspirée de la pipe coudée amérindienne. Peu coûteuses, elles sont fabriquées massivement en Angleterre et en Hollande, d'où on les importe par centaines, voire par milliers, ce qui explique leur forte représentation dans les sites archéologiques. Certains Canadiens préfèrent la pipe amérindienne, plus résistante que la fragile pipe d'argile. Plusieurs spécimens ont été trouvés dans des sites coloniaux français du XVIIe siècle, notamment au fort Frontenac. Fait intéressant, les matériaux et la forme des pipes amérindiennes se modifient notablement lors de la période de contact, surtout après 1650, alors que les Amérindiens délaissent un peu leurs pipes traditionnelles au profit des pipes manufacturées en Europe. Enfin, on trouve des exemplaires de la pipe de pierre dite de type Micmac, aussi appelée calumet. N'étant ni purement amérindienne, ni proprement française, la pipe de pierre est une innovation qui semble apparaître vers le milieu du XVIIe siècle, dans les zones d'intense contact interculturel. Si leur morphologie et leur décoration s'inspirent des pipes amérindiennes, il semble presque certain que la vaste majorité des calumets retrouvés dans des contextes coloniaux soit l'œuvre de Canadiens. Les motifs récurrents de certains spécimens constituent même de véritables signatures et permettent d'apprécier leur propagation dans la vallée du Saint-Laurent et autour des Grands Lacs. Prisés comme les gens bien nés. Outre le tabac en feuilles, on trouve aussi dans la colonie du tabac manufacturé, moulu finement et parfumé, destiné à être aspiré par les narines. On note la présence de tabac prisé en Nouvelle-France dès la fin du XVIIe siècle. Il est toujours importé. Les quantités varient selon les ans. Pour la seule année 1734, 4720 livres de tabac d'Espagne en poudre sont enregistrés au bureau du domaine d'Occident à Québec. Son prix s'avère beaucoup plus élevé que celui du tabac à fumer, de 10 à 15 fois plus cher, ce qui accentue son caractère élitaire. Car il s'agit bel et bien d'une substance associée au mode de vie aristocratique. Les élites européennes affichent une préférence pour la prise du tabac. Dès la fin du XVIe siècle, priser devient une pratique codifiée que tout gentilhomme ou dame se doit de maîtriser. Tout l'art consiste à renifler proprement et sans se salir. Cette mode se retrouve chez l'élite canadienne. L'aristocratie coloniale ne fume pas beaucoup, mais apprécie en revanche le tabac à priser. Même les dames prisent assez fréquemment, assure Père Calme au milieu du XVIIIe siècle. Les inventaires après décès nous apprennent qu'il en existe aussi en osier ou en carton peint. Plusieurs tabatières sont décorées de motifs d'argent, peintes, gravées, vernis ou dorées, certaines affichant même un portrait de leur possesseur ou d'un être chéri. Leur ornementation participe pleinement à la distinction sociale attachée à cette forme de tabagisme, comme si la beauté de l'objet mettait en évidence le bon goût ou, devrions-nous dire, le flair de son propriétaire. Le tabac semble donc occuper une place importante dans le mode de vie de l'élite d'origine française. Savoir user correctement du tabac en société est une manière de démontrer sa politesse et de se distinguer clairement des classes populaires. Plusieurs modes de consommation du tabac coexistent dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIe et XVIIIe siècle. La grande quantité de pipes exhumées par les archéologues témoigne de l'importance du tabac fumé à l'époque de la Nouvelle-France, montrant aussi des adaptations liées à cette pratique pendant cette période d'intenses échanges interculturels. Les tabacs fumés sont largement produits ici, mais d'importantes quantités sont importées. Enfin, la prise de tabac est une forme de tabagisme qui ferait son chemin jusqu'aux élites du Canada. Un examen plus approfondi des significations associées au tabac et à sa consommation, dont nous ferons ici l'économie, restrictions d'espace oblige, confirmerait que le tabagisme colonial, tributaire à la fois de l'héritage tabagique autochtone et d'un bon nombre d'apports culturels français, prend une forme typiquement canadienne dès le milieu du XVIIIe siècle, à l'instar de bien d'autres pratiques culturelles. Catherine Ferland est historienne professionnelle, spécialiste d'histoire de la consommation. Elle est la présidente des Rendez-vous d'histoire de Québec. C'était « Quelques histoires autour du tabac en Nouvelle-France », un texte de Catherine Ferland, paru au printemps 2019 dans le magazine Cap au Diamant, dans le numéro 137.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.